RCF. Bonsoir à tous, le magazine du week-end de 18h10 à 19h sur RCF avec RCF Cœur de Champagne et bien sûr RCF Reims-Ardennes. Ce soir, on retrouve Claude Ruiz qui est avec nous pour sa chronique du lundi. Claude, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Ensuite, on retrouvera bien sûr les maires et ce soir, nous retrouverons votre maire nous parle. Et notre invité aujourd'hui était Alain Vanscor. Il est maire de Bétheny dans le département de la Marne. On retrouvera le journal régional, on reparlera œcuménisme et puis on reviendra avec Christopher Fausten sur l'Union sportive de l'enseignement catholique de la Marne avec son président Julien Michelet. Claude Ruiz, bonsoir.
Alors, bonsoir.
Vous avez le moral parce qu'aujourd'hui, partout sur toutes les radios, on entend parler du Blues Monday, le lundi soi-disant le plus triste de l'année où on n'a pas le moral. Vraiment, les Américains, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer hein?
Oui, mais en réalité, il y a plein de facteurs au niveau international qui jouent dans ce sens. Hein. Vous avez vu les tempêtes, le froid.
Alors justement, nous, la joie se partage, on va essayer d'inverser la tendance. Claude Ruiz, donc bonsoir, merci d'être avec nous. Et on va évoquer, bien sûr, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui va démarrer d'ailleurs mercredi. Et c'est l'occasion pour nous d'avoir avec vous quelques repères sur ce mouvement interconfessionnel qui tente à promouvoir des actions communes en particulier entre les différents courants du christianisme, c'est bien ça
Oui, c'est ça, c'est une bonne définition. Je crois que dans cette période, puisque vous l'avez dit vous-même en introduction, là, hein, dans cette période de tension un peu partout, la grisaille est présente un petit peu partout, il y a beaucoup de tensions internationales et on s'aperçoit que ce qui est un peu dangereux actuellement, c'est que les grandes structures, que ça soit les accords de paix entre des pays, que ça soit les structures économiques, que ça soit des structures sur, j'allais dire, l'avenir de la planète, hein, peu importe, ces structures sont fragiles. On s'aperçoit que même l'Europe, vous l'avez vu, on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que l'Europe, est-ce qu'on peut continuer à la bâtir ou pas. Et les nations cherchent à être de plus en plus indépendantes. Et vous le savez que même sur le plan politique ou géopolitique, à l'intérieur même, en réalité, des nations, il y a des formes de fragmentation. Les régionalismes, par exemple, sont des formes de fragmentation. Donc on est dans quelque chose, c'est la grisaille, hein, vous l'avez peut-être dit au début, mais on est dans la grisaille. Donc je crois qu'il est nécessaire, sans doute, de réactiver l'action d'un certain nombre de pionniers des dialogues. Et dans l'Église, je crois que cette semaine de l'unité des chrétiens doit nous pousser à réfléchir justement à nos proximités, à nos différences, comment maintenir des ciments et sur quelle base reposent ces ciments. Alors, au 19e et au 20e siècle, il y a eu de nombreux mouvements qui ont essayé de rapprocher les églises, alors par petits morceaux, les protestants, orthodoxes et protestants, catholiques et protestants, je mets le terme protestant au sens large pour éviter de répéter toutes les églises qui sont nombreuses, mais on est dans ce cadre-là. Alors du côté orthodoxe, c'est le patriarche Germain V, du côté des anglicans, c'est le pasteur Charles Brent, du côté du catholicisme, on connaît bien Yves Congar qui a été à la base justement de ces unités et je ne vais pas là encore citer les très nombreux pasteurs.
Originaire de Sedan, rappelons-le.
Oui, en plus il faut montrer le phénomène de l'attachement aussi aux espaces régionaux. Et donc là, je crois que les mouvements pour l'unité des chrétiens, ou du moins pour la rencontre, c'est quelque chose d'important.
Alors sur quelle base ces rapprochements se sont-ils effectués, Claude Ruiz?
Alors, il y a quelques règles qui varient, mais on peut citer d'abord, je dirais, les textes, les règles de la foi, Ancien et Nouveau Testament, les textes de base. Alors après, bien entendu, il peut y avoir des interprétations, mais c'est un élément sur lequel, bon, on a un corpus, hein, et donc c'est l'élément essentiel. De ce corpus, il y a aussi des prières essentielles ou des expositions essentielles. C'est le symbole des apôtres et le symbole de Nicée, hein, là aussi. c'est quelque chose qui fait unité, sur lequel on peut discuter donc au niveau international dans ces différentes églises. Je vous rappelle que ces églises sont des églises aussi, églises africaines, asiatiques, qui sont très très nombreuses et qui, à la limite pour certaines, sont récentes. Il y a deux sacrements sur lesquels il y a eu, je dirais, en gros accord, baptême et Eucharistie. Hein, donc après, il peut y avoir des interprétations, mais ces deux sacrements sont essentiels. Et puis, la plupart des rencontres se terminent en montrant que les épiscopats ont un rôle essentiel à jouer, en particulier au niveau régional. Alors bien sûr, il y a des oppositions fortes, fameuses. Il est évident que, par exemple, dans le protestantisme, on n'a jamais accepté qu'il y ait un culte à la Vierge comme le font les orthodoxes. Hein, donc ça, il y a des points de doctrine qui sont très très forts. Mais à travers un conseil œcuménique des églises qui a été fondé en 1948, essentiellement au départ par des luthériens, ça profitait un petit peu à la rencontre de nouvelles églises qui apparaissaient au niveau international, essentiellement créées dans le tiers-monde. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la mise en place justement un de ces nouveaux espaces. Et je crois que ça a été une étape intéressante.
Alors c'est vrai qu'on y reviendra d'ailleurs sur RCF Reims-Ardenne, mais aussi sur RCF Cœur de Champagne. On a beaucoup parlé d'œcuménisme ce soir, par exemple dans les méditations, tous les soirs de cette semaine sur RCF Reims-Ardenne, et vous avez pu entendre Mgr Étienne Véteux ce matin. Alors ces premières étapes que vous évoquiez dans l'histoire de rapprochement entre les différentes églises, ont-elles été couronnées de succès finalement?
Alors je crois qu'il y a des mouvements de va-et-vient, comme dans tous ces grands mouvements de rapprochement, et qui ont une base intellectuelle et culturelle, si vous voulez, hein, sociale. C'est quelque chose de relativement fort. Donc, au XIXe siècle, il faut bien voir que les églises ont accompagné souvent les nationalismes. Les pays qui se sont créés en Europe et qui étaient sur une base orthodoxe, à chaque fois, il y a eu une église orthodoxe nationale qui a été à l'origine. Donc ça renforce parfois des tendances d'éclatement. Même l'église latine, dans les contacts qu'elle avait avec ses nouveaux États, elle a souvent favorisé des églises latines orientales. Donc vous voyez des forces qui, dans l'histoire, sont un petit peu d'éclatement. Mais à partir, on va dire, des années 1920-1925, on s'aperçoit qu'il y a plus de propositions autour des communions d'églises, qu'il y a, bien entendu, des étapes de rapprochement, de réflexion sur ces rapprochements. Pour les catholiques, Vatican II a été une étape, 1962-65, hein, Vatican, pour montrer un petit peu. Ça a été quelque chose qui a amené vers un œcuménisme biblique. Et je crois que l'évolution, donc, même si elle est chaotique, même si les structures qui ont été mises en place sont pas toujours très efficaces, comme le Conseil œcuménique des églises qu'on a cité tout à l'heure, dans lequel certaines églises s'en vont, hein. Par exemple, il y a les églises orthodoxes mal reçues, quittent le Conseil des églises. Mais il y a des lieux de rassemblement.
Alors pour terminer, Claude Ruiz, aujourd'hui, puisque nous sommes à quelques jours du lancement de cette semaine de l'unité des chrétiens, ce sera mercredi, est-ce qu'on peut mettre cette recherche et ces événements œcuméniques dans un contexte plus large, dans le contexte des relations internationales aujourd'hui? Est-ce que le contexte international d'aujourd'hui est plus compliqué, au fond, pour que ce dialogue s'installe?
Le contexte est beaucoup plus compliqué, mais je crois justement que les églises ont un rôle à faire pour dépasser les forces d'éclatement national ou nationaliste que l'on retrouve, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a un certain nombre de conflits au niveau international, mais on n'arrive plus à se parler. On n'arrive plus à se parler, et même dans certaines églises. Vous avez vu que le conflit entre l'Ukraine et la Russie fait que les orthodoxes russes et les orthodoxes ukrainiens n'arrivent plus à se comprendre. On veut plus qu'ils aient de relations. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Et je pense que, justement, dans ce cadre-là, il faut éviter les manipulations par le politique, on va dire, des églises, et il y a une nécessité de réflexion, et c'est le rôle véritablement actuellement de certaines franges, de toutes les églises, de réfléchir, de se rapprocher comme c'est le rôle, j'allais dire, des radios aussi, de faire entendre différents sons de cloche.
Et RCF, et vous l'avez rappelé d'ailleurs astucieusement à la fin de votre chronique, Claude, RCF est une radio œcuménique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on retrouvera Jean-François Boulanger, mais on vous retrouvera bien sûr régulièrement sur l'antenne. À bientôt, Claude.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Le soir, à 18h20, on a l'habitude de retrouver un maire de notre région, Champagne-Ardenne, des Ardennes ou de Reims, que nous interrogeons. L'émission est d'ailleurs diffusée à midi sur l'antenne de RCF Reims-Ardenne. Je vous propose aujourd'hui, il est avec nous, de retrouver le maire de Bétheny, Alain Vanscor. Alain Vanscor, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à redécouvrir Bétheny. Il est vrai que Bétheny est connu non seulement à Reims et dans la région, mais aussi pour nos amis ardennais. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon très générale cette commune, combien d'habitants, sa situation géographique à côté de Reims, enfin nous rappeler tout ça, monsieur le maire.
D'accord. Alors Bétheny, c'est la troisième ville de la communauté urbaine du Grand Reims. Il y a Reims, Vinqueux, et aussitôt après, il y a Bétheny. On est une ville de 7000... Alors, si je prends le dernier recensement qui date d'il y a 3-4 ans, 7002 et 7003, on est une ville de à peu près 7500 habitants. On fait partie de la première couronne de Reims, donc on touche Reims, qui a un avantage et qui peut être aussi de temps en temps un inconvénient, mais il n'y a jamais d'inconvénient avec nos collègues de Reims, dans le sens où c'est vrai que pour les habitants, ils ont la possibilité de vivre sur un petit coin de campagne avec aussi l'intérêt d'être à côté d'une grande ville.
Alors c'est vrai, est-ce que vous avez ressenti, monsieur le maire, par exemple, au moment du Covid, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient d'être dans des appartements, et ils se disent, bon, on va aller un peu en périphérie, on va avoir, c'est peut-être un tout petit peu moins cher, encore que, mais peut-être un petit peu moins, et on va avoir un bout de terrain, enfin, ça doit compter quand même.
Alors, on est trop près de Reims pour avoir un impact au niveau du prix des terrains. Le prix des terrains que nous avons sur Bétheny, Tainqueux, Saint-Brice, Cormontreuil, qui sont les villes de la première
du
couronne,
même ordre que Reims, oui.
Que Reims. Donc c'est vrai que les gens qui avaient cette logique-là de vouloir partir, il faut moins qu'ils partent à 40 ou 50 km de Reims, ce qui pose d'autres problèmes. Donc on n'a pas eu ce flux, nous, d'apport de population dû au Covid et l'envie d'avoir une propriété en ayant du foncier moins cher. Ça, on ne l'a pas eu, ça. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'à Bétheny, on se bat pour garder aussi un peu ce côté « village », entre guillemets. Je dis toujours, on est une campagne à la ville parce que bon, on a les accès avec les transports en commun, on a la possibilité d'avoir accès au cinéma de Reims, on a aussi toute la vie culturelle de Reims sur laquelle les Bétheniens peuvent profiter, même si à l'intérieur de la ville, on a une proposition assez importante au niveau de la vie culturelle, parce que ça me paraît essentiel, se vivre ensemble, cette vie en communauté autour d'une petite commune de 7500 habitants. Quoi.
Alors, quelles ont été, Alain Vanscor, vos motivations pour être maire? On sent que vous êtes quelqu'un de passionné, vous voulez la réussite de votre ville, de votre commune, Bétheny, mais vous avez commencé comme conseiller municipal, adjoint, et puis progressivement vous êtes devenu maire de Bétheny.
Alors, oui, alors c'est vrai que j'ai une fibre, j'aime les gens. Le premier emploi que j'ai eu, j'étais animateur socioculturel pendant une douzaine d'années. Dans la ville de Bétheny, j'étais le premier animateur du centre social de Bétheny. Et j'avais cette fibre de vouloir mettre des projets en place, j'avais cette fibre de faire vivre, se vivre ensemble entre les habitants. Et à un moment, je me suis dit, bah, étant animateur, c'est pas assez. Il faudrait que je m'implique d'une façon différente. Et il y a eu un nouveau maire, qui était monsieur Jean-Louis Cavenne, qui m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe. Et je lui ai dit ok. Au départ, j'étais conseiller municipal lambda. Après, j'ai été adjoint aux écoles. Après, j'ai été premier adjoint. Et maintenant, je suis maire et c'est mon deuxième mandat en tant que maire. Et j'essaye d'apporter cette idée de bien vivre, cette idée de développement harmonieux dans ma commune. Bon, j'espère que j'ai réussi.
Alors, quand on regarde tous les sondages d'opinion sur le plan national et qu'on demande aux Français quel est l'élu, quel est celui dont vous vous sentez le plus proche et qui pour vous est le mieux, entre guillemets, le mieux vu de la part des citoyens, il n'y a pas photo, en premier c'est le maire. Parce que c'est celui qu'on voit, c'est celui qu'on connaît, et quand on a une demande à faire, on va demander au maire. Ça veut dire aussi, monsieur le maire, il y a l'envers du décor, c'est que vous recevez quand même pas mal de demandes et puis vous avez parfois des demandes peut-être un petit peu à régler des cas, c'est pas vous qui vous en occupez, parce que forcément à Bethny vous avez toute une équipe autour de vous, mais malgré tout c'est un travail, une implication quand même très forte, l'implication de maire.
C'est une implication très forte, surtout dans des communes de cette grandeur, de 7500 habitants. Parce qu'on n'est pas dans une grosse commune ou une commune de 200 000, 300 000 habitants. Donc on est connu. Moi j'étais gamin dans ma commune, donc les anciens me connaissent depuis que j'ai 10 ans. Hein, donc il y a une approche qui est très sympathique. Mais il y a aussi le rôle de maire. J'aime bien cette phrase, on est quand même les premiers élus à portée de baffe. Ça veut dire que les habitants, à certains moments, pensent qu'on peut tout régler. Eh bien non, on ne peut pas tout régler parce qu'il y a des lois, on est obligé d'appliquer la loi, il y a des choses que l'on peut mettre en place et d'autres choses qu'on ne peut pas mettre en place. Nous aussi, on subit à certains moments la lourdeur de l'administration. Mais l'intérêt aussi de cette fonction, parce que pour moi, ce n'est pas un métier, c'est bien une fonction. L'intérêt de cette fonction, c'est d'être à l'écoute des habitants et de pouvoir leur apporter toute l'aide qui nous est possible. Mais il ne faut pas croire, parce que du jour au lendemain, on devient maire, qu'on a toutes les possibilités pour régler toutes les problématiques. À certains moments, on est là pour mettre de l'huile dans les rouages pour que tout fonctionne.
Alors, il faut dire à l'avant-score que vous avez sans doute avec Bethny des projets en cours ou des projets à moyen ou plus long terme qui sont déjà dans les tiroirs ou sur votre bureau où vous en discutez en ce moment.
Tout à fait. Alors, surtout qu'on est à la moitié, un peu plus maintenant de la moitié de la mandature. Donc, tous les projets qui ne seront pas mis en place sur l'année 2024, c'est des projets qui ne verront pas le jour. Donc pour nous, il est essentiel que cette année 2024 soit une année très productive en termes de projets et pour pouvoir tenir nos promesses de 2020. L'un des projets où je suis vraiment très fier, ce qu'on va mettre en place et l'ouverture qu'il y aura en 2024, c'est un espace famille. L'espace famille, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on est une jeune mère et qu'on a des incertitudes, des peurs, des craintes, on puisse se rendre dans un endroit pour avoir des réponses à nos problématiques. C'est aussi quand on est jeune parent et que l'on a des ados, on ne sait pas trop comment s'y prendre, eh bien on peut aller dans cet endroit. Ça peut être aussi parce que l'aîné, nos parents vieillissent et puis on ne sait pas comment s'y prendre avec la maladie Alzheimer, etc. Eh bien ça sera un endroit où les gens pourront aller, au moins avoir une écoute et essayer de trouver des solutions ensemble par rapport à leurs problématiques. Et ça, moi, j'y crois fortement parce que c'est ce qui fait lien dans une communauté. Et je crois que c'est important de pouvoir être à l'écoute des habitants pour pouvoir répondre le plus honnêtement possible à leurs problématiques.
On voit bien à l'avant-score que vous avez beaucoup de projets, que vous pourrez sans doute sur l'antenne, si vous l'acceptez, mais vous l'avez très gentiment accepté très rapidement dans des conditions, j'allais dire, assez rapides, cette interview, et je pense que nous pourrons la poursuivre parce que je suis certain que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire sur votre commune de Bethny. Vous êtes un Bethnia, vous êtes un passionné de votre commune et vous avez sans doute beaucoup de choses à dire. Je peux prendre presque rendez-vous avec vous, en quelque sorte.
Ah, tout à fait, il n'y a aucun problème. Moi, du moment qu'on me demande de me parler, que je parle de ma commune, je suis intarissable et je peux parler de ma commune toute la nuit parce que je crois fortement à la vie, à la démocratie locale, donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément.
Merci à l'avant-score d'avoir été avec nous et puisque Claude Ruiz est toujours là, on aura l'occasion aussi de vous retrouver dans des émissions qui concernent parfois le patrimoine, parfois des découvertes. Vous avez aussi, Claude Ruiz, en dehors de la chronique du lundi, souvent l'occasion d'intervenir sur notre antenne.
Oui, je crois que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très écuménique et je pense que moi, je suis un peu spécialiste de géopolitique, et donc ça permet d'aller un petit peu partout et d'apporter, en fin de compte, quelques regards. Pas toujours vrais, mais des regards.
Merci, Claude Ruiz, d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'info régionale, puisqu'il est pratiquement 18h30 dans ce magazine. Quelques titres dans notre information, pas mal de vœux aujourd'hui, les vœux des maires, les vœux des conseillers départementaux, généraux, un peu partout dans notre région. C'est d'ailleurs ce soir, dans quelques minutes, les vœux d'Arnaud Robinet, maire de Reims, et ce sera le cas pour le Grand Reims, avec Catherine Vautrin dans 48 heures. On ne sait pas si la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités sera présente, mais normalement elle devrait l'être, puisque justement, après sa nomination comme ministre, on s'interroge sur qui sera le président du Grand Reims. Arnaud Robinet, bien sûr, pourrait prendre le relais. Les collectivités locales rémoises lancent un nouvel outil pour être exemplaires dans le cadre de la réglementation sur la commande publique. C'est un peu technique, mais nous y reviendrons. Et puis, à noter la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. On l'a évoqué tout à l'heure avec Claude Ruiz. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est aussi l'occasion ce soir de revenir sur l'actualité à Châlons en Champagne, avec un comité de pilotage. Christopher Fausten nous en parlera.
RCF, le journal, Jean-Pierre Benoît.
Les collectivités locales rémoises viennent de lancer un nouvel outil pour être exemplaires dans la commande publique. C'est une nouvelle disposition qui a été prise il y a quelques jours. La ville de Reims et le Grand Reims ont donc lancé, c'est un terme technique, ce qu'on appelle le SPACER. Alexis.
Comme tous les schémas, c'est un peu barbare. L'idée, c'est d'avoir une démarche en termes d'environnement durable et en termes d'insertion et en termes d'accès à l'emploi pour les petites et moyennes entreprises le plus facile possible. Donc le SPACER s'adresse à la commande publique. La commande publique, pour vous donner un repère, pour nos deux collectivités, Reims et Grand Reims, en 2022, c'est près de 300 millions d'euros d'achats publics TTC. Et donc l'idée, c'est d'avoir une cohérence entre la volonté d'avoir un achat le plus rationnel possible et la volonté politique de développer la lutte contre la pollution, d'une part, de développer l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi et permettre aux petites entreprises qui pensent que les marchés publics, c'est pas pour elles, qu'elles puissent répondre à ces marchés publics parce que ces marchés peuvent les concerner aussi. Et on sait que les PME, c'est un tissu social important, c'est un tissu local, donc il mérite d'être soutenu, accompagné. Donc ce SPACER, ce schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, a pour but vraiment de mettre des actions concrètes pour atteindre tous ces objectifs, améliorer le développement durable, insérer les publics loin de l'emploi et permettre aux PME d'avoir du boulot sur le territoire.
À noter que le 11 mars prochain, une information à destination des structures relevant de l'économie sociale et solidaire sera organisée. Une démarche qui s'inscrit dans la continuité de l'accompagnement des candidatures proposées par les services. Comme je vous l'ai dit, c'était un peu technique. Et puis du côté de l'Aube, le conseil départemental de l'Aube a pour projet de créer une plateforme de marques partagées. Son objectif, attirer les touristes sur son territoire. Et explication, c'est un territoire touristique, puisque le département de l'Aube souhaite reconfigurer la politique dans ce domaine en associant les acteurs. Un an et demi après avoir organisé les Assises du tourisme, le conseil départemental de l'Aube a présenté les projets, notamment avec la création d'une plateforme de marques partagées. Philippe Pichery est président du conseil départemental de l'Aube.
Dans cette image, cette notoriété, cette identité, cette attractivité, eh bien, on a des produits effectivement de grande qualité qui sont connus nationalement, voire mondialement. La démarche consiste à les fédérer pour renforcer l'identité et donc avoir en quelque sorte une marque connue comme un certain nombre de territoires l'ont déjà fait avant nous. Il faut la structurer et surtout cette plateforme, comme toute la démarche des Assises du tourisme, n'a de sens qu'en associant très étroitement les partenaires qui font vivre ce tourisme. c'est par les producteurs et par les gens qui s'investissent en ce domaine que sera au bout la réussite de cette plateforme.
Propos recueillis par Christopher Fausten, le département de l'Aube mise aussi sur la campagne pour attirer les touristes en développant une offre de restauration et d'hébergement. À noter qu'à Épernay, plus de 700 personnes ont participé au défilé de la Saint-Vincent de l'archiconfrérie des vignerons de la Champagne. C'était samedi dernier, le 13 janvier, un cortège haut en couleur. Il a défilé avenue de Champagne. Il faut dire que la fête de la Saint-Vincent c'est le 22 janvier, mais elle se célèbre en décalé un peu partout dans notre région, va se poursuivre dans plusieurs communes du vignoble, notamment ce samedi dans le Cézanais, un sujet que nous pourrons retrouver sur le site rcf.fr. Et puis le sport n'est jamais absent du journal du lundi. Nos principaux clubs régionaux ont brillé en football ce week-end à l'image du Stade de Reims qui est allé s'imposer sur la pelouse de Monaco 3-1. C'était samedi après-midi. Un succès qui permet aux Rémois de remonter à la 6e place de la Ligue 1. Un peu plus tard dans la soirée, cette fois en Ligue 2, Troyes a bien entamé sa phase au retour en dominant Ajaccio 3-1. L'Estac est désormais 14e du classement avec 4 points d'avance sur la zone de relégation. Quant aux féminines du Stade de Reims, toujours en football, ils n'ont pas fait de détails hier après-midi. Les joueuses d'Amandine Miquel, qui évolue en D1 Arkema, ont balayé Roubaix, une formation de Détroit, 5-0. Elles accèdent ainsi au 8e de finale de la Coupe de France. Et puis pour terminer le volet, Chaumont a aussi brillé. Succès 3-7-1 à Saint-Jean-d'Illac. Les Haut-Marnais conservent la tête de la Ligue A. Et par contre, en basket, tout ne s'est pas bien passé, puisque dès vendredi soir, le Champagne Basket s'est incliné sur son parquet face à Poitiers, 69-72. Un revers qui fait reculer l'Alliance champenoise à la 16e place de Pro B. En Ligue féminine de basket, nouvelle désillusion pour les Flammes Carolo, qui ont été défaites dans le classique à Saint-Amand-Hainaut, 71-65, après prolongation. Elle s'enfonce à la 9e place du classement. Et puis pour terminer, une bonne nouvelle, la performance notable du week-end, c'est une prestation individuelle. La patineuse rémoise Laurine Schilt a terminé 5e des championnats européens pour sa première participation à un tel niveau chez les seniors. Chapeau. Ainsi s'achève ce journal. On retrouve bien sûr la suite du magazine dans quelques instants.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Puisqu'on évoque beaucoup la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous propose de retrouver un extrait de ce que nous avons entendu ce matin avec l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims, Monseigneur Étienne Véteux. Monseigneur Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous qui nous
Alors,
écoutent.
On évoque bien sûr régulièrement, on a des méditations le soir pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais alors on a besoin quand même, j'allais dire, d'avoir une petite formation parce que dans l'histoire, on peut commencer par l'histoire. D'où vient la semaine de prière pour l'unité des chrétiens d'une certaine façon ?
Pour répondre à cette question d'où vient la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vais faire un pas en arrière sur d'où vient ce qu'on appelle parfois le mouvement œcuménique, c'est-à-dire cet engagement de la part des chrétiens dans le monde de travailler, d'œuvrer pour l'unité. Il y a eu un point tournant au début du XXe siècle qui a été une conférence à Édimbourg en 1910 où étaient représentés des pasteurs protestants. Il n'y avait pas de catholiques ou d'orthodoxes à ce moment-là. Ces pasteurs protestants qui venaient de tous les pays du monde. Et ce qui s'est passé, c'est que, au milieu de conférences, tous les pasteurs d'origine du sud du monde se sont levés pour dire à peu près le même message. Ils s'adressaient à leurs collègues des pays d'Europe et d'Amérique du Nord en disant « Merci de nous avoir apporté l'évangile, mais nous ne vous remercions pas d'avoir apporté les divisions ». Vous avez apporté avec l'évangile les divisions de l'Église qui sont peu à peu construites en Europe à travers les siècles. Or, c'est un obstacle à l'évangélisation. Quand nous présentons l'évangile et le Christ chez nous, les personnes nous disent « Très bien, mais dans les évangiles, il est question d'amour, il est question d'unité. Et comment se fait-il qu'il y ait 3-4 églises à l'intérieur de notre même village ? Où faut-il aller ?» Et ça a été un appel, un réveil, et aussi, juste après, la Première Guerre mondiale, aussi étonnant que cela puisse paraître, a été un moment très important dans le sens où, dans les camps de prisonniers notamment, des prisonniers de différentes confessions chrétiennes, des protestants, des catholiques, des orthodoxes, se sont retrouvés. Ils ont parfois vu que ils pouvaient se soutenir les uns les autres. Parfois, c'était un protestant qui avait une vie de sainteté et qui tenait à l'intérieur d'un camp. Parfois, c'était un catholique. Donc, ils pouvaient compter là-dessus. Et puis, n'ayant pas des ministres de culte de toutes les confessions, ils s'approchaient de ministres d'une autre confession et en recevaient beaucoup d'aide. Et c'est là que beaucoup de prisonniers en sortant sont restés en relation au-delà des frontières entre les dénominations chrétiennes.
Ça, c'est un retour dans l'histoire, Monseigneur, un peu indispensable, parce que souvent, quand on parle de la semaine de prière de l'unité, on ne connaît pas ces origines qui se sont faites, j'allais dire, sur le terrain quand même, avec des questionnements. Mais alors, puisqu'on parle de la semaine de prière pour l'unité chrétienne, si on revient à cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mouvement œcuménique ?
Tout à fait. Vous avez raison, je n'ai pas encore parlé de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Au début du 19e siècle, avec ce mouvement que j'ai expliqué, est né le désir de prier pour l'unité. D'abord dans le monde protestant, et puis l'Église catholique, à partir de 1908, a institué cette semaine de prière, en parallèle avec une décision commune avec les églises, les dénominations protestantes, avec l'idée que finalement, c'est Dieu qui mène l'Église. Et c'est Dieu seul qui peut apporter l'unité. Et donc, la première chose à faire, c'est de prier pour l'unité. La première forme d'œcuménisme, c'est l'œcuménisme spirituel.
Alors, l'œcuménisme spirituel, on va en parler, il y a des méditations, on va y revenir. Simplement, une petite parenthèse, je me fais simplement un peu, à l'origine, ardennais. Et j'ai une pensée pour Yves Congar, qui est né à Sedan et qui a joué un rôle important lors du Concile Vatican II, où est apparue clairement cette notion d'œcuménisme qui existait déjà dans l'histoire, vous l'avez rappelé, Monseigneur, mais en donnant peut-être une impulsion, il a été l'un de ceux qui ont inspiré, sur le plan œcuménique en tout cas, cette dimension conciliaire.
Absolument. Dans ce mouvement, dans cette histoire, Yves Congar a été une des plus grandes figures. Et lui, ça a été, sans exclure d'autres formes d'œcuménisme, surtout un œcuménisme théologique. Habituellement, on distingue trois formes d'œcuménisme, ou trois aspects. L'œcuménisme spirituel, qui est le fait de prier pour l'unité et éventuellement de prier ensemble pour l'unité. L'œcuménisme théologique, c'est ce travail de nos différences de doctrine et puis aussi de nos points communs. Donc pour mieux puiser à la source de ce qui est commun et puis de voir si nous réussissons à mieux nous comprendre sur ce qui nous divise. Donc, œcuménisme théologique, Congar a beaucoup travaillé sur la question des sacrements, de l'Église, du rapport au pape, la place de la Vierge Marie. Et puis, la troisième forme d'œcuménisme, c'est l'œcuménisme pratique ou l'œcuménisme de service, où des chrétiens de différentes confessions, de différentes dénominations, se mettent ensemble au service des plus pauvres, se mettent ensemble au service de la société. Il y a même une dimension politique. On peut ensemble, par exemple, faire pression sur un gouvernement pour orienter des lois dans un sens ou dans un autre, qui respectera davantage le christianisme.
Justement, Monseigneur Étienne Véteux, on va vivre cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ici dans le diocèse de Reims comme partout dans le monde, mais œcuménisme spirituel, avez-vous dit ? C'est vrai que vous l'avez déjà un peu souligné, il y a différentes dimensions de l'engagement pour l'unité des chrétiens, d'autres manières de vivre l'œcuménisme.
Tout à fait, mais je pense que, en fait, j'ai fait le tour ici entre spirituel, théologique et pratique.
Sur le plan pratique, sur le terrain.
Sur le terrain.
On peut dire que, par exemple ici, ça arrive souvent, il y a des groupes bibliques qui peuvent se retrouver, mais il y a aussi des actions communes. On voit par exemple, ça peut être des maraudes, par exemple, au moment du froid, puisqu'en ce moment on traverse une crise un petit peu sur le plan du climat. On voit des catholiques et des chrétiens ensemble faire des maraudes avec le Secours catholique et avec des membres de l'Église protestante.
Tout à fait. On voit beaucoup de personnes qui sont d'autres confessions que catholiques avec le Secours catholique. Et puis l'entraide protestante, c'est aussi très 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 vivante ici, et on voit qu'il n'y a pas que des protestants qui donnent un coup de main à l'entraide protestante.
Alors il y a certainement des grandes richesses, mais aussi il y a aussi des risques dans cet œcuménisme, des voies de traverse dans l'engagement pour l'unité. Alors lorsqu'on œuvre pour l'unité, quelles sont les chances, quels sont les risques de cet engagement pour l'unité? Comment bien œuvrer à l'unité des chrétiens?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut effectivement souligner qu'il y a des réels risques, mais aussi qu'il y a des réelles richesses. Probablement, un des risques principaux, c'est le risque de vouloir à tout prix l'unité, tellement l'unité qu'on engomme nos différences. Nous engommons nos différences et du coup, nous risquons aussi de perdre une sorte de désir ou d'exigence de la vérité, alors que le Christ est venu apporter la vérité.
Une forme de dilution presque.
Oui, je pense que dans une manière de pratiquer l'œcuménisme, il peut y avoir une forme de dilution. Alors les richesses, en fait, sont presque l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret d'un lieu où on pourrait craindre une dilution, mais en fait, quand c'est bien mené, ça précise les choses et ça apporte plus de vérité, c'est sur la question de l'Eucharistie. D'abord, très souvent, j'ai entendu dire « les protestants ne croient pas en la présence réelle ». Il se trouve que, et Luther et Calvin insistaient sur l'importance de la présence réelle dans l'Eucharistie. Donc il y a déjà une question d'une connaissance simple de l'autre, au-delà des préjugés. Alors bien sûr, la compréhension de ce qu'est la présence réelle n'est pas toujours la même, mais nous pouvons dire que sur le cœur, les luthériens, les anglicans, la plupart des anglicans, les orthodoxes et les catholiques ont la même compréhension du cœur de ce qu'est la présence réelle, c'est-à-dire le pain et le vin sont transformés en corps et en sang du Christ.
Il faut dire aussi, Monseigneur, c'est une petite pratique de terrain, qu'on reprochait parfois aux catholiques d'avoir un manque de connaissance des textes, en particulier de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais depuis quelques années, des efforts considérables ont été faits dans le domaine de la formation. Et ça, c'est peut-être un apport, un enrichissement du protestantisme aussi, d'une certaine façon, qui a, dans les groupes bibliques, ont imposé, d'une certaine façon, de revenir au texte, de l'approfondir et d'en trouver des richesses pour sa propre foi.
Tout à fait. Je pense que, par exemple, l'exemple que je viens de donner, c'est que ensemble, quand on travaille ensemble sur l'Eucharistie, on voit quel est le cœur de l'Eucharistie. C'est la présence réelle et dans le monde protestant, on va insister aussi sur la foi de celui qui reçoit. Et dans le monde orthodoxe, on va insister sur le fait qu'il n'y a pas que le pain et le vin qui sont transformés, mais celui qui communie est lui-même aussi transformé. Donc, nous recevons les uns des autres. Les protestants et les orthodoxes reçoivent de l'amour de l'Église catholique pour l'Eucharistie et la présence réelle dans l'Eucharistie. Les autres reçoivent du protestantisme l'insistance sur la foi. Il y a besoin de foi pour recevoir le corps et le sang du Christ et que ça agisse dans notre vie. Et le monde orthodoxe va insister sur la transformation. Et de fait, le pain et le vin sont transformés pour notre transformation. Sinon, ça ne va pas jusqu'au bout. Et puisque, comme vous venez de dire, la question de la connaissance, moi, je suis très frappé. J'ai eu la chance, peut-être que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime ces questions, pendant un an, d'étudier dans une faculté protestante de théologie. À l'intérieur de mes longues études de théologie catholique, j'avais fait un an dans le monde protestant et j'ai beaucoup appris, beaucoup, beaucoup appris de leur amour pour l'écriture et de la connaissance qu'ils ont de l'écriture.
Il est vrai, Monseigneur, qu'on peut regarder aussi l'avenir. Alors, quelles sont les voies nouvelles à ouvrir ?
Il y en a certainement plusieurs. La première qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que dans la recomposition du paysage du christianisme, il y a un phénomène assez fort qui est la croissance des églises qu'on dit évangéliques et pentecôtistes. Alors, c'est peut-être pas aussi présent en France que dans d'autres pays, mais ici aussi, ces groupes chrétiens grandissent. Et les projections sont que en l'an 2025, d'ici un quart de siècle, ce seront des églises mettant ensemble toutes ces communautés chrétiennes qui couvriront 50% du christianisme. Et c'est immense, et que ce seront eux qui auront la capacité le plus d'atteindre des personnes qui elles-mêmes ne sont pas chrétiennes, donc de faire connaître le Christ à ces personnes-là. C'est une opportunité extraordinaire pour nous. C'est aussi un devoir pour nous de connaître et travailler ensemble avec cette partie de l'Église qui grandit. Et je pourrais dire que Dieu fait grandir, puisque c'est aussi un travail de l'Esprit-Saint. Mais nous avons beaucoup de résistance, de préjugés, de méfiance à surmonter. Donc, je dirais peut-être un point d'avenir, c'est mieux connaître les églises évangéliques, mieux connaître les communautés pentecôtistes, et voir comment on peut travailler ensemble. On a déjà appris d'eux, dans le sens que on parle beaucoup plus maintenant qu'il y a 20-30 ans de l'évangélisation, de la mission, ou bien de la rencontre personnelle de Jésus. Et ça, ce sont des thèmes qui, en fait, proviennent de ces mouvements-là. Et je suis sûr que eux peuvent recevoir de l'Église catholique, par exemple, une certaine sagesse, une certaine prudence dans la manière de faire.
Merci, Monseigneur Étienne Véteux, d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de vous retrouver, bien sûr, plus complètement au cours de nos prochaines éditions.
Le 18-19 sur RCF.
Et puis, on retourne du côté de Châlons-en-Champagne. Il faut dire que cette année scolaire est une année olympique et paralympique. Il faut dire que la Fédération sportive de l'éducation catholique, Luxel, prépare les élèves et l'ensemble des équipes éducatives à vivre deux événements exceptionnels avec un parcours sportif qui va mener les élèves vers Paris 2024. Le directeur de Luxel, Marne Ardennes, s'appelle Julien Michelet. Il est au micro de Christopher Forsten.
Bonjour Julien Michelet.
Bonjour.
Très bonne année à vous.
Merci également, à tous les auditeurs également.
Merci, ainsi qu'à toute l'équipe du Luxel, que ce soit dans la Marne et les Ardennes, mais aussi dans l'ensemble des Uxelles du Grand Est. Il y a quelques jours, sur les ondes de RCF, on a évoqué cet événement exceptionnel que Luxel a participé et organisé avec l'ensemble des établissements scolaires. C'est la flamme académique, avec un focus du côté de Châlons-en-Champagne, sur les ondes de RCF. Un événement exceptionnel qui a déjà démarré depuis fin novembre dans la Marne.
Oui, c'est ça exactement. On a eu sur une très bonne idée des services de l'éducation nationale et donc du recteur, la mise en place de cette flamme académique, hein, qui n'est pas la flamme olympique, je le répète, mais une flamme académique qui a été réalisée par les élèves de la section chaudronnerie du lycée Gustave Eiffel de Reims, qui ont réalisé vraiment une sorte de réplique, hein, de la flamme olympique, et qui donc voyage dans l'académie de Reims et qui voyage depuis le mois d'octobre, hein, en se baladant dans les Ardennes, et depuis effectivement le 29 novembre, elle est sur le département de la Marne et elle repart fin janvier pour ensuite aller du côté de la Haute-Marne.
Alors elle traverse les établissements scolaires privés et publics, hein, puisque c'est un projet initié par le recteur de l'académie.
C'est ça, exactement. Il y a aucune différenciation entre public et privé dans ce cadre-là. D'ailleurs, ça serait contraire aux valeurs olympiques, hein, qui prônent le rassemblement.
Le côté union.
Voilà. Donc, c'est même très très bien. On a des établissements publics qui transmettent la flamme à des établissements de l'enseignement catholique. Il y a des petites cérémonies qui sont organisées. Moi, j'en ai vécu une là récemment, Place Foch, entre le collège Duruy, pardon.
Oui.
Duruy et le collège Notre-Dame-Perrier. Donc, il y avait un super état d'esprit. Et donc, voilà, ça porte, enfin, l'esprit olympique porté par la flamme fait son effet.
Le reportage à retrouver sur notre site rcf.fr et en images, hein, sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Une petite réaction déjà personnelle de cet événement exceptionnel. C'est quelque chose qui nous arrive quand même pas tous les jours.
Franchement, le mot qui revient toujours, c'est chouette, c'est magnifique, on le voit dans les yeux des jeunes qui portent la flamme, même si on le sait, hein, c'est pas la véritable flamme, mais c'est tout comme dans les yeux des plus petits, dans les écoles qui reçoivent cette flamme. Il y a un gros travail de fait par les écoles de notre réseau et même ceux qui sont dans notre réseau, hein, pour vraiment enjoliver la venue de cette flamme avec des cérémonies d'accueil, des défilés, des classes, des groupes, des activités physiques et sportives. Enfin, il y a vraiment un gros travail de fait. Donc chez les petits, ça leur fait briller les yeux, très clairement. Chez les grands, ça les fait rêver, je pense aussi, par rapport aux Jeux Olympiques qui arrivent. Donc non, c'est chouette, ça permet vraiment de créer du lien. Nous, Luxel, on s'est associé tout naturellement à cette flamme académique à travers tous les projets que l'on mène cette année, particulièrement en direction des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc voilà, c'est quelque chose qui va marquer l'année très très clairement, et les établissements qui se sont portés volontaires, parce que c'était sur la base du volontariat, je pense, garderont un super souvenir et ça marquera à tout jamais l'histoire des établissements qui l'auront vécu.
Et on peut dire que maintenant, quand on voit ce genre d'événement, qu'on est vraiment à la dernière ligne droite de ces JO de Paris 2024. Alors, on le disait il y a quelques instants, Julien Michelet, que la flamme va poursuivre du côté de la Haute-Marne, mais elle va encore se poursuivre, hein, sur le territoire de la Marne, notamment prochainement du côté de Courtisolles.
C'est ça. Alors, le cheminement dans la Marne a été organisé par différents secteurs. C'est le secteur rémois qui l'a accueilli au tout début le 29 novembre et qui l'a gardé pendant une quinzaine de jours. Et après, elle s'est baladée Montpellier, secteur d'Épernay, pour ensuite revenir sur Chalon, après elle va repartir du côté de secteur de Cézanne, pour finir du côté de Vitry-le-François, qui est le secteur le plus proche ensuite de la Haute-Marne pour oui. pour la passation. Donc ouais, voilà, un véritable périple, comme le sera le périple de la flamme olympique en juin prochain dans notre département.
En tout cas, un très très bel événement à retrouver en images sur les réseaux sociaux du RCF Cœur de Champagne. Julien Michelet, directeur départemental du secteur Marne-Ardennes à Luxelles, avec nous aujourd'hui sur RCF. On vient d'évoquer la flamme académique. On n'oublie pas les différentes compétitions qui se déroulent tout au long de l'année, notamment les compétitions départementales de basket et de badminton en ce moment.
Ouais, c'est ça. Là, on arrive dans une phase où voilà, on a différentes disciplines qui arrivent au calendrier, qui sont elles-mêmes qualificatives ensuite pour les finales territoriales, l'échelon régional Grand Est, qui est qualificatif ensuite pour faire vivre à nos jeunes une expérience nationale. Donc ouais, là ça prend. On sent que on a de l'euphorie qui arrive, des inscriptions qui arrivent de toutes parts par les établissements. Je pense même que cet esprit olympique, voilà, amène une volonté à nos jeunes de s'engager plus particulièrement cette année dans l'association sportive de leur établissement. Donc voilà, c'est bien pour tout. Ouais.
Et en attendant, on prépare tranquillement, façon de parler, les actions en faveur des JO de Paris 2024 avec beaucoup de projets qui sont en réflexion, en préparation. On est un peu à la dernière ligne droite. Comment ça se passe? Quelles sont les pistes justement de Luxelles pour mettre en valeur ce côté Jeux Olympiques?
Ouais, bah, je me suis fait la remarque que le 31 décembre 2023 au soir, quand on a basculé en 2024, je me suis dit ça y est, on y est. On ne peut plus dire qu'on
2024, voilà, c'est l'année.
Ça, c'est l'année, c'est maintenant. Donc voilà, il y a un gros travail là durant cette période hivernale de préparation des projets du printemps, de toutes les ressources qui vont être proposées à nos établissements, parce que il est très important de leur proposer des nouveautés, des exclusivités, des petites situations qu'ils auront à vivre. Donc il y a un gros travail là, c'est l'hiver, on est enfermé, on est un peu moins dehors, hein, on n'habite pas du côté d'Aix-en-Provence, donc on n'a pas de météo favorable.
C'est sûr.
Donc on en profite pour vivre des choses comme ça et travailler pour que au printemps tout se passe du mieux possible et qu'on leur offre des actions qui seront mémorables pour eux, quoi.
Des idées de pistes?
On
peut avoir des scoops un petit peu sans rentrer dans les détails. C'est forcément, on n'est pas encore dans les détails des événements, mais est-ce qu'on a déjà des idées d'action?
Tout simplement, déjà quelque chose qui est toujours demandé et très attendu de nos établissements, ce sont les Olympus. Alors, je parle pour les maternelles.
On a déjà l'habitude de rencontrer depuis quelques années.
Et les Olympus cette année vont prendre une colorisation très 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 olympique. Donc on va proposer des situations un peu nouvelles, des moments un peu plus olympiques. Hein, vous doutez bien, avec différentes choses qui vont permettre aux enfants de maternelle de s'y croire, de se dire voilà, moi aussi je vis mes Jeux Olympiques. Donc on essaye d'organiser tout ça, et puis après sur la fin d'année pour nos plus grands, ça va être aussi important. Même pour nos collégiens, on prépare une action spécifique pour nos sixièmes qui sont aussi une génération importante pour l'avenir. Donc il faut leur donner les bonnes valeurs en termes de pratiques sportives, et les JO sont là pour ça.
Julien Michelet, toutes ces actions que vous êtes en train de préparer tranquillement à l'approche des JO, ça se prépare uniquement sur le territoire Marne-Ardennes, ou c'est une collaboration avec les Uxelles du Grand Est ou même les Uxelles du territoire de l'Hexagone?
Ouais, c'est un travail. On échange beaucoup entre les collègues. Là prochainement, on a une réunion. On va devoir travailler en collaboration pour la semaine olympique et paralympique qui cette année va avoir un sens particulier. C'est
également,
la dernière avant les
sûr.
JO. Donc voilà, les idées de chacun sont bonnes à prendre pour les mutualiser, pour offrir un produit de qualité à nos établissements, à nos enfants. Donc ouais, il y a un gros travail d'échange entre nous tous.
Je me dis, après les JO, on va s'ennuyer à Luxelles, ou il va falloir créer de nouvelles choses, parce qu'on a eu l'habitude de créer des événements autour des JO ces dernières années. On va falloir se lancer sur un nouveau projet à partir de la saison prochaine.
C'est là que c'est très intéressant. Moi, je suis particulièrement attentif à ça, parce qu'il va falloir rebondir. On a surfé clairement sur une vague énorme qui nous emmène vers les JO, même pas peur. Non, au contraire, il va falloir trouver l'entrée et être bon et faire vivre des émotions nouvelles. Et on a quelques idées, mais ça, on en reparlera pour les futurs scoops.
Eh ben, j'ai hâte d'y être. En tout cas, merci beaucoup, Julien Michelet, d'avoir pris ce temps aujourd'hui sur RCF, directeur départemental à Luxelles du secteur Marne-Ardennes. Bravo pour tout ce que vous faites, bien sûr, en termes d'événements, de compétition avec Luxelles, et on vous souhaite une bonne continuation pour ces préparations des différentes actions en faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent à grands pas. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci Julien Michelet et Christopher Fausten depuis le studio RCF à Chalon en Champagne. Il est l'heure de nous quitter, de nous séparer. Soyez prudents, même s'il y a eu un petit peu de soleil. Quand même, aujourd'hui, les températures n'ont pas dépassé les 2 à 3 degrés du côté de Reims. Et on attend un refroidissement pour les prochains jours. Mais le conditionnel est de rigueur. En tout cas, il faut garder le moral. En ce lundi, nous aurons le plaisir de vous retrouver demain pour des actualités régionales avec, en particulier, les maires de notre région. Et puis demain, à 18h10, comme toujours, le magazine régional, le magazine de Champagne-Ardenne avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardenne. Bonne soirée.